Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce second épisode d'ActuVu. Vous l'avez sans doute bien compris, c'est une toute nouvelle équipe qui reprend le flambeau dès aujourd'hui, mais toujours avec une même ambition, vous éclairer au mieux sur l'actualité de la semaine. Dans cette émission, Benjamin rejoint les rangs pour nous détailler les répercussions de la situation entre Israël et le Hamas en France. Jeanne se penchera sur la croissance en Chine qui inquiète le FMI. Alexandre nous donnera des nouvelles de la réforme des retraites, comme quoi on n'a pas fini d'en parler. Et Tristan reviendra sur la grève qui frappe Hollywood depuis plusieurs mois. Et Agathe enfin conclura cet épisode en nous dévoilant ses conseils pour suivre l'actualité cette semaine. Et spoiler, ActuVu fait partie de la liste. Mais avant cela, on garde les bonnes habitudes et ses places soient fluotées, présentées par Nina.
Une nouvelle attaque au couteau ce vendredi au lycée Gambetta d'Arras dans le Pas-de-Calais. Un enseignant a été tué et deux personnes blessées. L'assaillant aurait crié « Allah Akbar » et a été interpellé. C'est un ancien élève de l'établissement, âgé de 20 ans, né en Russie et fiché S. Il était déjà surveillé par les renseignements. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Sur place, Emmanuel Macron a dénoncé la barbarie du terrorisme islamiste. Cette attaque intervient presque 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Le professeur d'histoire avait été décapité le 16 octobre 2020 près de son collège dans les Yvelines, après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. C'est l'attaque terroriste la plus tragique de l'histoire d'Israël, selon Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée jeudi soir. Depuis le 7 octobre, les combats font rage entre le groupe islamiste du Hamas et Israël. De nombreux civils ont été touchés. On dénombre actuellement plus de 1300 morts en Israël et 1500 du côté palestinien. Le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007 et depuis le territoire est soumis à un blocus par Israël avec l'aide de l'Égypte. C'est une première mondiale, le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a reconnu un lien entre les malformations de Théo Gratalou et l'exposition de sa mère au glyphosate pendant sa grossesse. Le jeune garçon est né en 2007 avec un grave dysfonctionnement de la trachée et de l'œsophage. Alors qu'elle ignorait être enceinte, Sabine Gratalou avait désherbé pendant plusieurs jours sa carrière d'équitation avec un produit à base de glyphosate. La Commission européenne avait proposé de prolonger l'autorisation de l'herbicide pour 10 ans. Les 27 n'ont pas réussi à s'entendre vendredi. Nouveau vote en novembre. De nombreux cabinets fermés, les médecins libéraux ont entamé une grève reconductible vendredi à l'appel de tous les syndicats représentatifs. Ils réclament notamment la hausse des tarifs des consultations. Elles doivent déjà passer de 25 à 26,50 € dès le 1er novembre. Mais cette augmentation est jugée insuffisante. La dernière revalorisation date de 2017. Le Conseil d'État a rendu sa décision mercredi. Le ministère de l'Intérieur a 12 mois pour rendre plus visible et garantir le port du RIO, le référentiel des identités et de l'organisation. C'est le numéro d'identification que doivent porter sur leur uniforme les forces de l'ordre en intervention. Plusieurs associations avaient saisi le Conseil d'État jugeant cette obligation mal respectée. Un nom à retenir cette semaine, celui de l'américaine Claudia Goldin. La professeure d'économie à Harvard a remporté le prix Nobel d'économie lundi. Ses travaux portent sur la place des femmes dans le marché du travail. Elle a notamment montré comment et pourquoi les différences de revenus et de taux d'emploi entre les hommes et les femmes ont évolué au fil du temps. C'est la troisième femme à remporter ce prix après l'américaine Elinor Ostrom et la franco-américaine Esther Duflo. Et sans surprise, le Royaume-Uni et l'Irlande organiseront l'Euro 2028. Ce sera au tour de l'Italie et de la Turquie en 2032. Chaque candidature était seule en liste. Ils ont été désignés par l'Union européenne des associations de football mardi. Les 10 stades de 2028 sont déjà connus. L'Italie et la Turquie doivent se décider avant octobre 2026. En attendant, l'Euro 2024 se tiendra en Allemagne en juin prochain.
Debout !
Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Moi ! Mais qui elle est, celle-là ?
Quelle indignité.
Et aujourd'hui, pour ce qui est du volet français, on va aborder avec toi, Benjamin, les répercussions en France de la situation au Proche-Orient. Et vous l'avez sûrement constaté, le conflit résonne dans l'Hexagone.
Oui, tout à fait, Louis. La situation en Israël après l'attaque du Hamas samedi dernier touche aussi les autres pays, avec des décisions politiques qui ne sont pas fait attendre, comme en France. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a interdit ce jeudi les manifestations pro-palestiniennes avant de modérer ses propos ce vendredi et d'annoncer que les interdictions se feront au cas par cas. Malgré tout, des rassemblements ont déjà eu lieu comme à Paris, où près de 3000 personnes se sont rassemblées ce jeudi soir.
Et la France a mis en place des rapatriements depuis Israël ?
Oui, aussi, des vols spéciaux ont eu lieu ce vendredi et ce samedi pour faire revenir les expatriés français qui vivent en Israël. Les ressortissants les plus vulnérables, comme les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap, ont eux pu embarquer prioritairement dès jeudi. Et ces liaisons aériennes ont été mises en place puisque depuis samedi dernier et le début de l'attaque, aucun vol n'avait pu relier Israël et la capitale française.
Et on l'a entendu hier soir, le président s'est adressé à la nation à ce sujet.
Oui, le chef de l'État a indiqué que la France devait faire front pour éviter que le conflit ne s'importe sur le territoire, alors qu'une centaine d'actes antisémites ont été relevés depuis samedi. A rappelé aussi que pour le moment, 13 Français sont morts dans ce conflit et 17 sont toujours portés disparus, comme l'a annoncé Emmanuel Macron hier.
Passons à la justice. Une décision importante dans l'attentat de Magnanville vient d'être rendue, Benjamin.
En effet, Mohamed Lamid Aberouz a été condamné ce mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Pour rappel, il était accusé de complicité dans le meurtre de deux policiers, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, le 13 juin 2016 à leur domicile de Magnanville. Malgré tout, le feuilleton n'est pas terminé. La défense et donc les avocats de Mohamed Lamid Aberouz a annoncé faire appel de cette décision qu'ils trouvent, je cite, « scandaleuse ».
Et nos amis les moustiques font encore parler d'eux.
Oui, près de 1200 cas de dengue ont été recensés en France cette année depuis début mars, 1167 précisément, 5 fois plus que l'année dernière, et un record depuis 2006 est la mise en place du dispositif de surveillance. Cette maladie, qui peut se manifester par des fortes fièvres, des courbatures, des nausées, s'étend dans l'hexagone en même temps que l'expansion du moustique tigre, transmetteur de ce virus et qui lui est arrivé en France en 2004.
God save the king.
Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
I have a dream.
Be you. Be proud of you.
Malgré le conflit qui perdure entre le Hamas et Israël, nous avons fait le choix de ne pas traiter le sujet cette semaine, mais d'y consacrer un épisode entier pour le premier hors-série de la saison. Rendez-vous mercredi prochain. Et la croissance mondiale devrait rester à son plus bas niveau depuis des décennies en 2024, et la Chine, l'une des économies majeures, montre des signes de faiblesse inquiétantes, Jeanne.
Oui, mardi 10 octobre, à l'occasion de l'Assemblée annuelle de l'institution multilatérale qui s'est tenue à Marrakech, le FMI, le Fonds monétaire international, a maintenu ses prévisions de croissance pour l'année 2023. Pierre-Olivier Gourinchat, qui en est le chef économiste, a dit lors d'une conférence de presse que la croissance mondiale ralentira, passant de 3,5% en 2022 à 3% cette année, une baisse qui, selon lui, reste en dessous de la moyenne historique. Il souligne également qu'un retour au rythme d'activité d'avant pandémie de Covid semble, et je cite, « de plus en plus hors de portée ». La Chine, quant à elle, inquiète le FMI. Son dynamisme s'essouffle et sa croissance a ralenti, passant de 8,9% au premier trimestre 2023 à 4%.
Mais comment peut-on expliquer cette faiblesse qui touche Pékin ?
Eh bien, l'empire du milieu est touché par une crise immobilière d'envergure et c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux parce que depuis 2 ans, cela suscite une défiance dans le secteur de l'immobilier qui est un des piliers de l'économie chinoise puisqu'il a longtemps représenté un quart de son produit intérieur brut. Ce que conseille le FMI, en fait, c'est de restaurer le système en restructurant rapidement les promoteurs immobiliers en difficulté parce que si les prix baissent trop rapidement, les bilans des banques et des ménages se détérioreront, ce qui entraînerait de graves difficultés financières. Et selon les calculs de Pierre-Olivier Gourinchat, tout recul de 1% de la croissance chinoise impliquerait une baisse de 0,3% de la croissance mondiale.
Et l'économie mondiale est loin d'être tirée d'affaire avec l'inflation élevée, les marges de manœuvre budgétaires qui se sont érodées dans certains pays ou encore les dettes. Les risques persistent et de nombreux pays sont vulnérables. Et du côté de la Russie, un journaliste est toujours en détention.
Cela fait 8 mois qu'Evan Gerskovitch, 31 ans et reporter au Wall Street Journal, est maintenu en détention provisoire en Russie. Il avait été arrêté le 29 mars dernier par les services de sécurité russes lors d'un reportage. Accusé d'espionnage, un crime passible de 20 ans de prison, le journaliste, son journal et ses proches rejettent ces accusations. Pour le moment, sa détention doit au moins durer jusqu'au 30 novembre.
On rappelle qu'en 2022, le bilan annuel de Reporters sans frontières comptabilisait un triste record de 533 journalistes en détention. Et de l'autre côté de l'Atlantique, la sécheresse n'épargne personne, puisque l'Amazonie brésilienne est elle aussi touchée.
La sécheresse qui frappe l'Amazonie est qualifiée de terrible. Les cours d'eau sont presque à sec, ce qui empêche les populations d'être approvisionnées. Un niveau d'eau réduit et un réchauffement de la température de celle-ci qui provoque aussi une hécatombe du côté de la faune aquatique. Une sécheresse renforcée par le phénomène climatique El Niño, qui se caractérise par le réchauffement de l'eau des océans, ce qui entraîne des conditions climatiques extrêmes, sécheresse, forte pluie, cyclone ou encore vent extrême.
Et le ministre radical est en colère.
Combien ?
This is Elon Musk.
Vous pensiez ne plus en entendre parler, eh bien c'est raté. Les retraites sont de retour, Alexandre.
Oui, on en reparle depuis ce lundi avec une revalorisation des petites pensions, jusqu'à 100 euros en plus pour certains retraités. Alors pour être considéré comme une petite pension, il faut 1. Avoir réalisé une carrière complète, et 2. Toucher le MICO. Le MICO, c'est le minimum contributif. Il permet aux retraités qui ont cotisé sur de faibles revenus de toucher un montant minimum de retraite. Une hausse des pensions qui se fait au compte-gouttes. 700 000 personnes étaient concernées par la revalorisation lundi. Pour le million d'autres, il faudra attendre le printemps 2024.
Mais attention, tout le monde n'a pas touché 100 euros.
Et oui, en cause de savants calculs que je vous épargne, je vous rassure. Retenez que la revalorisation moyenne brute par mois est estimée à 60 euros. Et bon, la mesure a fait un peu pchit, puisqu'à peine lancée, elle faisait déjà l'objet d'un bug informatique. Conséquence, des retraités ont reçu de l'argent qu'ils ne devaient pas toucher. Et désolé de te le dire, Louis, le calvaire n'est pas terminé. Un autre dossier pourrait devenir important, la revalorisation des pensions de retraite, là encore, mais cette fois complémentaire. On vous conseille de vous pencher là-dessus.
On vous en reparlera peut-être dans un prochain épisode pour votre plus grand plaisir. Et ce week-end, c'est aussi le deuxième numéro de la Tribune Dimanche, et c'est ce qu'on appelle un lancement réussi.
Tellement réussi que pour son deuxième numéro, le tout nouvel hebdo du journal racheté par Rodolphe Saadé augmente son tirage. 120 000 la semaine dernière contre 130 000 cette semaine. L'objectif est clair, venir concurrencer le JDD version Geoffroy Lejeune.
Anatomie, puberté, contraception, il semblerait que la France ait un train de retard sur l'éducation sexuelle à l'école, Alexandre.
Les élèves français n'auraient pas assez de cours d'éducation sexuelle, c'est un baromètre des apprentis d'Auteuil qui souligne ce manquement. Un élève français a 3 cours d'éducation sexuelle dans toute sa scolarité, pourtant légalement il devrait en suivre 3 par an.
Moi je parle pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Moi tu me parles pas d'âge.
I recoupe the ball.
C'est un véritable séisme qui secoue le monde d'Hollywood depuis plusieurs mois, une grève historique des acteurs qui paralyse le secteur. Et ce n'est pas prêt de s'arranger, Tristan, puisque le principal syndicat hollywoodien et les patrons de studios viennent de suspendre leurs négociations.
Oui, les deux parties l'ont annoncé ce jeudi 12 octobre, et dans cette histoire, chacun se renvoie un petit peu la faute, accusant l'autre de mauvaise volonté et de revendications excessives. Résultat des courses, toujours pas d'accord, et des discussions au point mort.
Bon, pour recontextualiser, le 2 mai dernier, les scénaristes commencent la grève, ils sont ensuite rejoints par les acteurs 2 mois plus tard.
En gros, acteurs et scénaristes demandent des revalorisations salariales pour faire face à l'essor du streaming, ils veulent aussi obtenir une protection contre l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais visiblement, leurs revendications ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque les syndicats de scénaristes ont trouvé un terrain d'entente avec les studios le mois dernier, alors que pour les acteurs, rien ne semble réglé.
Et le mouvement va donc se poursuivre, il a d'ores et déjà provoqué le report de plusieurs blockbusters et séries comme Deadpool 3, Dune 2 ou la dernière saison de Stranger Things. Et un peu de sport maintenant, Kelvin Kiptoum vient de rentrer dans l'histoire du marathon.
Ce dimanche 8 octobre, le Kenyan de 23 ans a battu le record du monde de la discipline à Chicago, 2h35 secondes. Il améliore le temps de la légende Eliud Kipchoge de plus de 30 secondes et se rapproche de la mythique barre des 2h. Mais cette performance pose question, Kiptoum sort un petit peu de nulle part, il courait seulement son 3e marathon, puis les récents cas de dopage d'athlètes kenyans ne l'aident pas vraiment à dissiper les doutes.
Et ce sont deux grands sportifs francophones qui ont fait leurs adieux cette semaine en annonçant leur retraite.
Le premier, c'est Thibaut Pinot. Il a couru sa dernière course ce samedi 7 octobre. C'était lors de l'ultime étape du Tour de Lombardie, un classique qu'il a d'ailleurs remporté en 2018, sûrement la plus belle victoire de sa carrière. Le second, c'est Eden Hazard. Il a annoncé sa retraite sur sa page Instagram ce mercredi. Alors Hazard, c'est Lille, Chelsea, puis le Real Madrid. 126 sélections avec la Belgique, meilleur joueur de la Premier League en 2015 et 2 fois champion avec Chelsea. Sa fin de carrière à Madrid a été minée par les blessures, mais il est quand même considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs de sa décennie.
Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
Colline, c'est quoi ton journal préféré ?
Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ?
À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
L'épreuve d'actualité, un exercice qui peut effrayer. Que faut-il réviser ? Quels médias faut-il regarder ? À quelle fréquence ? Réponse avec Agathe.
Alors voilà, pour vous préparer au mieux à l'épreuve d'actualité, il faut déjà prendre de bons réflexes. Donc dès le matin, en prenant votre petit déjeuner avec vos tartines et votre jus d'orange, vous écoutez une matinale, celle que vous préférez. Une fois douché, habillé, les écouteurs dans les oreilles, vous filez dans les transports. Alors là, je vous propose d'écouter un podcast sur l'actualité, par exemple L'heure du monde, ça ne mange pas de pain. Une fois arrivé à la fac ou sur votre lieu de travail, vous jetez un petit coup d'œil sur les applications de France Info, Le Monde ou Le Figaro par exemple. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications des médias, c'est le super conseil. Une fois en cours, vous ouvrez discrètement votre ordinateur sur une page X, donc anciennement Twitter, c'est une mine d'informations. Vous pouvez créer des listes sur des thématiques spécifiques telles que l'actualité internationale, nationale et régionale en suivant des personnalités et des journalistes pour ne pas en perdre une miette et ne négliger aucune actualité. Entre midi et 2, après avoir avalé un club sandwich et discuté avec des copains, je vous propose de regarder le 13h sur France 2 ou TF1. Durant l'après-midi, je vous laisse un peu tranquille, il faut y aller doucement sur la digestion. Vérifiez tout de même vos notifications. Le soir, l'émission Les Informés de France Info vous accompagnera le temps de la préparation d'un dîner. Et pour finir en beauté, rendez-vous sur le compte Instagram d'Hugo Décrypte. Si vous avez les 5 actus de la journée, vous avez tout gagné. Évidemment, ce programme du combattant n'est pas à respecter à la lettre, vous pouvez vous l'arranger à votre sauce. Dernier petit conseil, abonnez-vous à la médiathèque près de chez vous, tous les journaux y sont disponibles gratuitement. Les newsletters de Libération vous aideront aussi. Et maintenant, à vous de jouer!
Merci à tous de nous avoir suivis, on vous envoie toute la force nécessaire dans le début de vos révisions. Je remercie Jeanne, Agathe, Nina, Tristan, Benjamin ainsi que Clément à la technique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.